Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Après une jeune fille et une année studieuse, Anne Wiazemski poursuit la chronique de son parcours de femme avec Un an après, récit de ses années de mariage avec Jean-Luc Godard. Le roman commence quelques mois avant les événements de mai 68. La révolte gronde, toile de fond du récit qui va s'insinuer peu à peu dans l'existence de l'héroïne, celle de son couple, de son métier d'actrice et de son entourage. Bonjour Anne Wiazemski.
Bonjour.
Ma première question va conditionner un petit peu la suite de notre entretien. Est-ce qu'on doit dire vous ou elle pour parler de l'héroïne de votre roman ?
Je préfère elle,
ouais.
Mais je considère depuis deux livres que c'est au lecteur de décider.
D'accord, donc. Il se peut que j'alterne de l'un à l'autre selon les questions.
Et moi, il se peut que je dise « je » et que je me reprenne en disant la narratrice. Ou...
D'accord. Bon, alors le livre commence alors que Paris bouillonne à l'aube de mai 68. Et une effervescence dont vous avez connaissance, mais dont vous ne semblez pas saisir tout de suite l'ampleur.
Mais je crois que personne ne l'a saisi. Si vous voulez, qu'on ne pouvait pas être en même temps acteur et analyste. Et en tout cas, pas moi, mais beaucoup de personnes que je connais, on a tous été saisis d'abord et suivant plus ou moins ce qui se passait. Pour moi, c'était très important, en écrivant ce livre, justement, de respecter ça, de ne pas me faire plus maligne que la narratrice l'était et de ne pas me servir de ce que nous avons tous su après.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est très intéressant, dans la conduite du personnage, pas juste à propos des événements, c'est que vous ne racontez rien avec un regard a posteriori.
Oui, c'est un choix délibéré. Je sais que quelqu'un qui m'est très cher, mon plus ancien meilleur ami, me le reproche, mais c'est un choix délibéré. Là, je peux le défendre.
Quoi. À mon sens, ça sert complètement le profil du personnage, du coup, que vous essayez de dessiner. Alors, à vos côtés, Jean-Luc Godard apparaît, lui, à ce moment-là, quand même bien plus engagé et combatif. Et est-ce que c'est quelque chose que vous admiriez chez lui ou qui, parfois, pouvait vous effrayer ?
Vous savez, c'était quelqu'un de tellement inattendu, tout le temps, tellement complexe. Et c'est quelqu'un auprès de qui je ne me suis jamais ennuyée trois secondes. Donc, j'appréciais un tout avec des choses qui m'ennuyaient. Ses amitiés avec des militants maoïstes, j'ai jamais eu envie de les connaître, si vous voulez. Mais par contre, d'autres, oui. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très riche. Il y avait 15 idées par jour, en fait, c'était...
Donc il n'y avait pas dans son comportement, même dans son côté inattendu, finalement quelque chose qui pouvait vous déstabiliser. C'était quelque chose que vous aviez accepté, je dirais, avec le personnage dans son ensemble.
Je crois que oui. Mais je crois qu'aussi être amoureux, c'est ça. C'est accepter quelqu'un complètement dans ce bouillonnement. Même si ce que je n'ai absolument pas pu comprendre, donc dans un deuxième temps, accepter qu'il crache à ce point-là sur son cinéma que je trouvais génial, que je trouve toujours génial, et qu'il prenne un tournant aussi radical, ça. Et là, je ne me rendais pas compte, et aucun de ses amis, de nos amis, ne se rendait compte de l'importance de ses paroles à ce moment-là, si vous voulez. Donc là aussi, je ne voulais pas être en avance. Non, on n'a pas compris ce qui se passait.
Votre personnage est régulièrement malmenée. Par exemple, elle se fait gifler lors de rassemblements, traitée de conne par Bruno Kremer. Parfois, les reproches de Godard lui-même la présentent comme une femme sans engagement, un peu inconsciente. Et ça, vous le racontez d'une façon tout à fait objective. C'est quelque chose, néanmoins, qui vous a profondément marqué ou que vous avez traversé sans encombre.
Que j'ai traversé sans encombre. C'est parce que par ailleurs, j'entendais des choses très gentilles, très tendres, très amoureuses, très admiratives, et C'était la moindre des choses que je m'étale pas trop sur les qualités qu'on me trouvait, si vous voulez. Donc ça, c'est... Non, j'étais... En plus, le terme, maintenant, avec une époque beaucoup plus politiquement correcte, à cette époque-là, qui ne l'était pas, connard et connasse étaient employés à tout bout de champ. Ça n'avait pas le même impact qu'aujourd'hui.
Et alors, justement, on a parfois l'impression, souvent même l'impression, que le personnage affirme un droit à la candeur dans cette période trouble, ou du moins la possibilité de ne pas tout sacrifier au nom d'un discours collectif que vous estimiez parfois flou et bavard. C'est une position en réaction contre l'engagement viscéral de certains de vos proches, ou finalement, j'ai demandé votre regard a posteriori, un état normal de la jeune fille de 20 ans que vous étiez.
J'ai envie de vous répondre.
Peut-être même la femme d'aujourd'hui.
Oui,
hein.
Voilà. Que c'est, et je ne mets aucun jugement moral sur moi-même, je suis très individualiste. J'étais très déjà douée pour être individualiste et je le suis toujours. Là, je n'ai pas changé. Je ne m'en vante pas.
C'est même surtout pas tant ça que vous... En tout cas, vous ne mettez pas votre personnage... En avant, vous ne justifiez absolument en rien. Parfois, ça donne une vision du personnage un peu peut-être futile, alors oui, ou individualiste peut-être. Mais en même temps, cette pudeur et cette honnêteté-là, finalement, donne une dimension au roman qui va au-delà de la petite chronique d'une vie de couple, pour en faire, malgré tous les personnages illustres qu'il y a autour de vous, un personnage, alors là, pour le coup, un personnage de roman à part entière.
Merci.
Mais du coup, est-ce que c'est une volonté de votre part ou c'est vraiment l'essence de votre écriture qui provoque ça, qu'on retrouve aussi dans les deux précédents livres,
hein? Mais je crois que, enfin, il me semble, tout ça, je dis ça très prudemment, que quand justement on arrive à se transformer et à transformer les autres en personnages de roman, c'est très libérateur. Et que, étrangement, par ce biais qui permet d'être un peu plus libre, on atteint quelque chose de plus vrai que quand on fait une biographie ou une autobiographie. Ça, j'en suis formellement convaincue, profondément.
Oui, et finalement, alors, ce biais-là, la fiction, confère quand même finalement au roman quelque chose d'assez documentaire, peut-être via cette objectivité.
Oui, et par ailleurs, comme il est question d'événements historiques, c'est vrai que là, j'ai beaucoup travaillé dans des recherches toutes directions sur mai 68, même si je me souviens très bien de certaines choses, par exemple la hiérarchie, mais totalement, je fais une bouillie de tout ça. Donc, je me suis fait vraiment une hiérarchie des événements, et là-dessus, j'invente rien. Tel jour a eu lieu tel manif. Alors peut-être ils n'ont pas dit ce jour-là, à ce moment-là, ce qu'ils se sont dit, mais si c'est 3 jours avant, 3 jours après, on s'en fiche, je crois.
Complètement, oui, tout à fait. Alors vous racontez, parmi nombreux épisodes, celui entre Godard et Bertolucci, au restaurant, où Jean-Luc Godard lui dit, alors même que vous devez jouer dans le prochain film de Bertolucci, comme moi jadis tu as fait un cinéma de merde et tu vas continuer en toute bonne foi un cinéma de merde, tu trahis les idéaux de ta jeunesse, tu choisis le camp des oppresseurs, tu deviens un ennemi de classe, mon ennemi de classe. Là j'ai envie de vous demander, c'est un discours d'homme jaloux ou une vraie théorie sur le cinéma?
J'ai envie de vous dire, c'est n'importe quoi. C'est en tout cas pas du tout un discours d'homme jaloux. C'est n'importe quoi sur le discours théorique sur le cinéma, avec des idées glanées à droite à gauche dans les pires endroits. Je le raconte dans le livre, là, elle ne supporte pas.
Ah non, c'est vraiment... C'est douloureux pour elle.
Il s'en va, et il lui dit « Tu viens ?» Elle dit non, elle reste.
Voilà, c'est une des premières fois d'ailleurs où elle dit non, et puis après on...
Et puis c'est là où on voit que Jean-Luc est adorable, parce que quand même il pleuvait à verse dehors, il revient au bout de 20 minutes en disant mais espèce de crétin à tous, ça fait 20 minutes que j'attends dehors qu'on
Personne
vienne me chercher.
Personne n'est venu me chercher, oui, tout à fait, oui. Et alors à la fin du roman, vous écrivez La fin malheureuse de notre histoire devint banale et privée. Je cessais d'être un témoin privilégié de l'époque. Je ne l'écrirai pas. Donc on imagine que ce triptyque, peut-être davantage qu'une trilogie, parce que...
Mais c'est joli, triptyque.
Triptyque, oui. Mais c'est surtout que je ne les ayant pas lus dans l'ordre, je trouve que finalement, les échos se répercutent, quel que soit le sens dans lequel on lit.
Tant mieux.
Mais donc, puisque ça, vous ne l'écrirez pas, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez ensuite explorer par l'écriture ?
Ben non, à de rares moments près, je ne sais jamais. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un, malheureusement, qui ait beaucoup d'idées ou beaucoup d'envie, puisque c'est plus de l'ordre de l'envie. Et cette phrase que vous venez de citer, je l'ai vraiment rajoutée, enfin j'ai travaillé dessus jusqu'à là, arriver à maîtriser ce que je voulais dire. Je l'ai rendue à la toute fin du livre, parce que ce n'était pas assez clair. Et que je voulais pas que. Je voulais que par contre ce soit très net pour ceux qui lisent, qu'en tout cas l'histoire de ces deux Gugus, Jean-Luc et Anne, je leur épargne la banale et douloureuse séparation. Voilà.
Pour ceux qui lisent et peut-être aussi pour ceux qui vous interrogent, parce que c'est étrange comme ce livre est très pudique et en même temps raconte beaucoup de choses. Et quand on s'apprête à envisager la possibilité de vous poser des questions, il y a tout. Un pan, j'imagine, de questions peut-être impudiques, enfin, qu'on s'interdit, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas nécessaire ou en tout cas pas essentiel, uniquement au regard, enfin à mon sens, hein, de cette dernière phrase.
Ben, ça veut dire que vous êtes un très bon lecteur et pudique et respectueux. C'est un compliment. Hein.
Pour vous. Pour moi, et ben, je le prends avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup
pour cette lecture.
Ce livre et j'ai envie de dire pour les deux autres que j'ai découverts grâce à celui-ci. Donc je vous recommande vivement Un an après de Anne Wiazemski, paru aux éditions Gallimard.
C'était l'interview des Poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des Poches sous les yeux. Ah.